Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, 6e cassette, 2e face, page 145. Tom décida que désormais, il pouvait se passer de Becky Thatcher. La gloire lui suffisait. Il ne vivrait que pour la gloire. Maintenant que la renommée lui souriait, peut-être Becky voudrait-elle se raccommoder avec lui. Quel essai! Elle verrait qu'elle ne comptait plus pour lui. Quelques minutes après, elle arriva. Tom fit semblant de ne pas la voir. Il s'en alla vers un groupe de garçons et de filles et commença à pérorer. Avec une exubérance affectée, Becky joua à poursuivre ses camarades, riant très fort quand elle en attrapait une. Et Tom remarqua qu'elle n'en attrapait jamais que quand elle était près de lui et qu'à ce moment-là, elle ne manquait pas de jeter un coup d'œil dans sa direction pour voir s'il l'avait remarqué. Ce manège ne fit que stimuler sa vanité. Au lieu de l'amadouer, cela fut cause qu'il persévéra dans sa résolution de faire celui qui ne voyait rien. Bientôt, elle cessa de courir et se mit à errer d'un air indécis, en poussant des soupirs et en continuant à jeter vers Tom des regards aussi furtifs qu'éplorés. Elle remarqua que Tom parlait plus particulièrement à aimer Lawrence qu'à aucune autre. Cette constatation la troubla. Elle en éprouva un vif serrement de cœur. L'idée lui vint d'abord de s'en aller, mais malgré elle, elle revint vers le groupe. S'adressant à une petite fille qui était à côté de Tom, elle lui dit d'un air faussement enjoué : Eh bien, Mary Austin, en voilà une vilaine petite fille qui n'est pas venue à l'école du dimanche. Mais si, j'y étais, dit Mary. Tu ne m'as pas vue ? « Ma foi, non, » dit Becky. « Où étais-tu assise ?»« Dans la classe de Miss Peters. C'est toujours là que je vais. Mais toi, je t'ai bien vue. »« Pas possible, » répondit Becky. « C'est drôle alors que je ne t'ai pas aperçue. Je voulais te parler du pique-nique. »« Oh, chic !» dit Marie. « Chez qui ?»« Mais chez nous, » dit Becky. « Maman m'a permis de l'organiser. »« Crois-tu qu'elle m'invitera ?» demanda Marie. « Bien sûr, » dit Becky, « ce pique-nique est pour moi. Elle invitera tous ceux que je voudrai. »« Oh, ça, c'est pas tant, » dit Marie. « C'est pour quand ?»« Bientôt, dès qu'on sera en vacances. »« Oh, on va bien s'amuser, » cria Marie. « Tu invites tous tes camarades ?»«
Oui, enfin, tous mes amis ou ceux qui veulent l'être. » déclara Becky en jetant un regard furtif du côté de Tom.
Mais celui-ci racontait par le menu à Aimée Lawrence la terrible tempête qui s'était déchaînée sur l'île et lui expliquait avec force détail comment à 1 mètre de lui à peine la foudre avait réduit le gros sycomore en miettes.
« Est-ce que je pourrais venir ?» demanda Gracie Miller.
« Oui, » dit Becky.
« Et moi ?» demanda Sally Rogers.
« Bien sûr !»
« Et moi ?» demanda Suzy Harper. « Et Joe ?»«
Oui, oui, oui !» dit Becky.
Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, battant des mains, tout le groupe se fût fait inviter, à l'exception de Tom et d'Aimé, qui ne dirent mot. Ensuite, Tom, froidement, s'éloigna en continuant son passionnant entretien avec Aimé. La pauvre Becky sentit ses lèvres trembler. Les larmes lui vinrent aux yeux. Elle voulut cacher son trouble sous une feinte gaieté en continuant à bavarder, mais en vérité, tout l'intérêt que ce pique-nique présentait pour elle avait disparu. Dès qu'elle le put, elle s'échappa pour pleurer à son aise dans un coin et panser les blessures faites à son amour-propre. Quand la cloche sonna, elle se leva, l'œil mauvais, donna une chiquenaude à ses nattes et se déclara à elle-même qu'elle savait ce qu'elle allait faire. À la récréation, Tom voulut continuer à faire des frais pour Aimé et il l'entraîna dans l'espoir de rencontrer à nouveau Becky et d'attiser encore sa jalousie. Il finit par la trouver, mais son exaltation tomba subitement. Derrière l'école, Becky était sagement assise sur un petit banc et regardait des images en compagnie d'Alfred Temple. Ils étaient si absorbés, Leurs têtes se penchaient si près l'une de l'autre au-dessus du livre qu'ils ne semblaient pas avoir conscience de ce qui se passait autour d'eux. Un flot de jalousie coula dans les veines de Tom. Il s'en voulait d'avoir laissé échapper l'offre de réconciliation que Becky lui avait faite et se traitait de tous les noms. Il en aurait pleuré de rage. Aimé continuait à bavarder, le cœur en joie, mais Tom avait perdu sa langue. Il n'entendait plus ce qu'elle lui disait et quand elle s'arrêtait, attendant une réponse, il ne pouvait que balbutier un vague assentiment ou le plus souvent répondre à côté de la question. Il revenait machinalement vers le banc derrière l'école pour s'emplir les yeux de ce spectacle qui lui faisait mal, mais auquel il ne pouvait pas s'arracher. Ce qui le rendait furieux, c'est qu'à en juger par ce qu'il voyait, Becky ne semblait pas faire plus attention à lui que s'il n'eût pas existé. En quoi il se trompait ? Becky le voyait bel et bien, elle savait qu'elle gagnait la partie et qu'à son tour, il était malheureux comme elle l'avait été. Les papotages d'Aimé finirent par exaspérer Tom. Il eut beau prétexter qu'il avait à faire ceci ou cela, qu'il avait de nombreuses questions à régler, que le temps pressait, rien n'y faisait. Aimé continuait à bavarder et Tom pensait « Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour m'en débarrasser de cette fille ?» Enfin, il réussit à s'échapper. Ingénument, elle l'assura qu'elle serait à la sortie de l'école. Il l'en détesta davantage. « Si encore elle en avait choisi un autre, grommelait Tom en grinçant des dents. N'importe quel autre, dans toute la ville, il n'en manque pas. Mais ce petit crevé, si fier de ses beaux habits et de ses soi-disant quartiers de noblesse, pah ! T'en fais pas, mon bonhomme. Je t'ai flanqué une tripotée dès le premier jour que tu as passé dans ce patelin. Oui, monsieur, et il ne tient qu'à moi de t'en flanquer une seconde. Ça ne traînera pas. Je finirai bien par te rencontrer un de ces jours. » Il se mit à mimer un combat avec un ennemi imaginaire, distribuant des coups de poing, des coups de pied, à droite, à gauche. « Tiens, prends ça. Tu ne dis pas encore assez. Bing ! Eh ben, prends encore celui-là. » La bataille imaginaire se termina à son entière satisfaction. Il était midi. Tom rentra chez lui. Il ne pouvait plus supporter les amabilités d'Aimé, ni affronter à nouveau le spectacle de son propre malheur. Becky recommença à regarder les images avec Alfred. Comme le temps passait et que Tom ne venait pas s'offrir à sa vengeance, cette occupation cessa de présenter le moindre intérêt. L'enjouement de Becky tomba. Elle devint distraite, puis mélancolique. Deux ou trois fois, croyant entendre un pas, elle dressa l'oreille. Mais son espoir fut déçu. La tristesse l'envahit. Elle regretta d'avoir poussé la chose aussi loin. Le pauvre Alfred se rendait compte qu'il perdait du terrain, mais il ne comprenait pas pourquoi et continuait à s'exclamer. « Oh, quelle belle image ! Regarde celle-là !» Becky perdit patience.
« Mais tu m'ennuies, dit-elle, j'en ai assez de ces images !»
Elle fondit en larmes, se leva et partit. Alfred lui emboîta le pas. Il essaya de la consoler, mais il lui cria «
Va-t'en, laisse-moi tranquille, je te déteste !»
Le pauvre Alfred s'arrêta, se demandant en quoi il avait démérité. Car c'était bien Becky qui lui avait demandé de regarder ses images avec elle pendant toute la récréation. Et la voilà qui se sauvait en pleurant. Alfred, vexé, entra dans la salle de classe. Il ne fut pas long à comprendre. Becky s'était servie de lui pour se venger de Tom Sawyer. Alfred était loin d'éprouver beaucoup de sympathie pour Tom et il souhaitait trouver dans cette aventure la possibilité de lui faire pièce sans courir trop de risques. Le manuel d'orthographe de Tom lui tomba sous la main. L'occasion était toute trouvée. Il ouvrit le livre à la page de la leçon du jour et renversa l'encrier d'encre noire dessus. À ce moment précis, Becky, derrière lui, le regardait par la fenêtre. Elle fut témoin de cette vilaine action mais se garda bien de révéler sa présence. Elle se retira dans l'intention d'aller trouver Tom chez lui et de tout lui raconter. Tom lui en saurait gré et ce serait la fin de leur brouille. Cependant, avant d'arriver chez elle, elle changea d'avis. Après tout, elle en voulait à Tom de la manière dont il s'était comporté pendant qu'elle parlait de son pique-nique. Il serait fouetté pour avoir abîmé son livre. Eh bien, tant pis. Une fois pour toutes, elle le détestait. Chapitre 19. Le morceau d'écorce. Tom rentra à la maison de fort méchante humeur. Et les premières paroles que sa tante lui adressa furent pour lui montrer qu'il n'était pas au bout de ses peines.
« Tom, je ne sais pas ce qui me retient de t'écorcher vif !» s'écriait tante Polly.
« Mais qu'est-ce que j'ai fait, ma tante ?»«
Ce que tu as fait, tu oses le demander ?»« Je vais chez Madame Harper, la bouche en cœur, lui raconter ton rêve pour jouir de sa stupéfaction. Et qu'est-ce que j'apprends ? Que tu es venu ici mercredi soir ?» Et que tu as entendu tout ce que nous avons dit? C'est Joe lui-même qui a mis sa mère au courant. Tom, je me demande ce qu'il adviendra d'un enfant capable de faire des choses pareilles. Penser que tu as pu me laisser aller chez Madame Harper et me couvrir de ridicule, que tu n'as rien dit pour m'en empêcher? Oh, j'en suis malade!
La question changeait d'aspect. Tom avait trouvé très spirituel, très amusant, de mystifier ainsi tout un village comme il venait de le faire. Et maintenant, voilà qu'il lui fallait déchanter. Il avait commis une mauvaise action. L'oreille basse, il ne sut d'abord pas quoi répondre. Puis il risqua. « Ma tante, je regrette ce que j'ai fait. Je n'ai pas réfléchi. »
« C'est justement ce que je te reproche. Tu ne réfléchis jamais. Tu ne penses à rien qu'à toi-même. Tu as bien pensé à venir de l'île Jackson en pleine nuit pour te payer notre tête. Tu as bien pensé à me raconter des histoires à dormir debout à propos d'un rêve que tu n'as pas fait. Mais tu n'as pas pensé une minute au chagrin que nous pouvions avoir, ni à faire ce que tu pouvais pour nous épargner ce chagrin. »
« Ma tante, je me rends compte maintenant que c'était mal de ma part, mais je n'ai pas fait cela par méchanceté. Je vous assure que non. Et puis, si je suis venu ici l'autre soir, ça n'était pas pour me moquer de vous. »«
Pourquoi alors ?»«
C'était pour vous dire de ne pas vous inquiéter à notre sujet, que nous ne nous étions pas noyés. »«
Tom !» Je serais la tante la plus heureuse du monde si je pouvais croire que ton intention était aussi bonne que tu veux bien le dire. Mais avoue toi-même que non, tu le sais et je le sais.
Si, ma tante, c'était cela que je voulais faire.
Tom, Tom, ne mens pas. Tu ne fais qu'aggraver ton cas.
Je ne mens pas, ma tante. Je dis la vérité. Je voulais faire en sorte que vous n'ayez pas de chagrin. C'est pour cela que je suis venu.
Oh, je donnerais n'importe quoi pour te croire, Tom. Cela rachèterait beaucoup de tes péchés. Et alors j'en viendrais presque à être heureuse que tu aies fait cette équipée. Mais ça ne tient pas debout. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que tu voulais me dire?
Eh bien, vous comprenez... C'est quand vous avez parlé de services funèbres qu'il m'est venu à l'idée de nous cacher dans l'église. Alors, une fois que j'ai eu cela dans la tête, il m'a été impossible d'y renoncer et j'ai mis le bout d'écorce dans ma poche et je n'ai rien dit.
Quelle écorce ?
Le morceau sur lequel j'avais écrit que nous étions partis faire de la piraterie. Ah ! J'aurais bien voulu que vous vous soyez réveillé quand je vous ai embrassé. Je vous assure, ma tante. »
Les traits de la vieille dame se détendirent. Ses yeux exprimèrent toute l'émotion attendrie qu'elle ressentait.
« Alors, vraiment, tu m'as embrassé, Tom ?»«
Mais oui. »«
Tu en es bien sûr ?»«
Mais tout à fait certain, ma tante. »«
Pourquoi m'as-tu embrassé ?
Parce que je vous aime bien, parce que vous poussiez des gémissements pendant votre sommeil, et que ça me faisait de la peine.
Il faut bien le dire, ces paroles avaient l'accent de la vérité. La vieille dame ne put réprimer un tremblement dans sa voix quand elle répondit.
« Ah, allons, viens m'embrasser encore une fois. Et maintenant, oust, file à l'école et laisse-moi tranquille. »
Tom, à peine parti, la tante Polly courut vers le placard où était pendue la loque qui lui avait servi de veston pendant qu'il était pirate. Le veston en main, elle n'acheva pas le geste commencé et se parlant à elle-même.
« Je n'ose pas le regarder. » Pauvre petit, peut-être bien qu'il m'a menti, mais c'est un pieux mensonge qui m'a fait du bien. J'espère, je sais que Dieu le lui pardonnera, parce que c'est par gentillesse qu'il l'a commis. Mais je ne veux pas savoir si c'est un mensonge, non, je ne regarderai pas.
Elle raccrocha le veston au porte-manteau et demeura perplexe. Deux fois, elle étendit la main pour reprendre le veston. Et deux fois, elle se retint. Elle recommença une troisième fois en se répétant que c'était un pieux mensonge, qu'elle ne s'en affligerait pas. Elle fouilla dans sa poche. Un instant plus tard, elle déchiffrait sur le morceau d'écorce le message de Tom et à travers ses larmes, elle disait
« Ah, 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 maintenant, je lui pardonnerai tous les péchés qu'il voudra. »
Chapitre 20. Conduite chevaleresque de Tom. Quand la tante Polly embrassa Tom, il y avait dans sa façon d'être une impulsion affectueuse qui rasséréna ce dernier et lui rendit toute sa gaieté. Il repartit pour l'école et au bout de la rue des Prés, il eut la chance de rencontrer Becky. La conduite de Tom dépendait toujours de son état d'âme. Sans l'ombre d'une hésitation, il courut vers elle.
J'ai été méchant avec toi aujourd'hui, Becky, et je le regrette. De toute ma vie, je ne recommencerai plus. Faisons la paix, veux-tu ?
La petite s'arrêta et le toisa d'un regard dédaigneux.
Passez votre chemin, monsieur Tom Sawyer. Je ne vous parle plus.
Elle releva la tête et continua sa route. Tom fut tellement abasourdi qu'il n'eut même pas la présence d'esprit de lui rétorquer un « Que voulez-vous que ça me fasse ?» avant qu'il soit trop tard. Si bien qu'il ne dit rien, ce qui ne l'empêchait pas d'être violemment en colère. Il entra dans la cour de récréation en déplorant que Becky ne fût pas un garçon. Il lui aurait administré une raclée de première grandeur. Il ne fut pas long à passer près d'elle et lui décocha une réflexion cinglante. Elle répliqua sur le même ton. C'était la brouille. Becky éprouvait un tel ressentiment qu'elle ne tenait plus en place dans l'attente de la rentrée, tellement elle était impatiente de voir Tom se faire fouetter pour avoir abîmé son livre. Si elle avait eu un instant l'intention de dénoncer Alfred Temple, la malencontreuse initiative de Tom s'était chargée de l'en dissuader. La pauvre fille ne se doutait pas qu'elle aussi allait bientôt se trouver exposé au même danger. Le maître d'école, M. Dobbins, D-O-B-I-N-S, avait atteint un certain âge sans avoir pu réaliser ses ambitions. Il aurait voulu être médecin, mais sa situation de fortune ne lui avait permis de devenir qu'un modeste instituteur de village. Chaque jour, il tirait de son pupitre un livre mystérieux dans lequel il se plongeait pendant les heures d'étude. Ce fameux livre était toujours sous clé. Petits et grands, tous mouraient d'envie de le regarder, mais l'occasion ne s'en présentait jamais. Quel était ce livre ? Chaque élève avait son opinion. Il n'y avait pas deux avis semblables et pas moyen de contrôler lequel était le bon. Or, Becky, passant le long du pupitre près de la porte, s'aperçut que la clé était dans la serrure. La voilà bien l'occasion. Becky jeta un coup d'œil à la ronde. Personne. Une seconde plus tard, elle avait le livre en main. Le titre, Traité d'anatomie par le professeur Intel, ne lui dit pas grand-chose. elle entreprit de tourner les pages. Le frontispice colorié représentait un corps humain nu. À ce moment, une ombre se profila sur la page. Tom Sawyer entrait. Il aperçut la gravure. Becky referma le livre précipitamment, mais dans sa hâte, elle eut le malheur de déchirer l'image juste en son milieu. Elle rejeta le volume dans le pupitre, donna un tour de clé et, honteuse, vexée, éclata en sanglots.
Oh, Tom Sawyer, c'est très mal ce que tu fais là, d'espionner ce que les gens regardent.
Ben, est-ce que je pouvais savoir que tu regardais quelque chose, dit Tom.
Tu devrais avoir honte, Tom Sawyer. Maintenant, tu vas me dénoncer. Et alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je serai fouetté, moi qui n'ai jamais été fouetté à l'école.
Elle tapa du pied et ajouta.
Fais ce que tu voudras, après tout. Je sais bien, moi, ce qui va arriver tout à l'heure. Tu vas voir. Je te déteste, je te déteste.
Elle sortit de la pièce dans une nouvelle crise de larmes. Décontenancé par cette attaque, Tom se dit. Quelle drôle de chose que les filles. Jamais fouetté en classe. Oh, voilà une affaire. C'est bon pour les filles, cette sensiblerie, cette peur de tout. Bien sûr que je n'irai pas raconter l'affaire au père Dobbins. Si je veux me venger, j'ai d'autres moyens qui ne sont pas si moches que celui-là. Qu'est-ce qui va se passer? Le père Dobbins demandera qui a déchiré son livre. Personne ne répondra. Alors il fera comme il fait toujours. Il demandera à chacun un tour de rôle et quand il arrivera à la coupable, il saura que c'est elle sans qu'elle ait besoin d'ouvrir la bouche. Les filles, ça se voit toujours sur leur figure. Elles ne savent pas y faire. Elles n'ont pas assez de toupet. Et Becky sera pincée. Ah, elle est dans un mauvais cas. Mais je ne vois pour elle aucun moyen de s'en sortir. Tom réfléchit un moment, puis dit. Tant pis, elle voudrait bien me voir dans le même pétrin, ça lui apprendra. Tom rejoignit dans la cour la bande de ses camarades. Au bout d'un instant, le maître d'école arriva et sonna la rentrée. Tom ne prit pas grand intérêt à la classe. Chaque fois qu'il jetait un regard du côté des filles, la consternation de Becky le désolait. Tout bien considéré, il ne voulait pas la plaindre, et cependant... C'était tout ce qu'il pouvait faire. Aucun dérivatif possible. Vint l'incident du livre de vocabulaire de Tom, et pendant un certain temps, Tom dut consacrer son attention à ses propres affaires. Becky était sortie de sa léthargie et suivait avec intérêt ce qui se passait. Elle pensait bien que Tom ne chercherait pas une échappatoire en prétendant que ce n'était pas lui l'auteur du malheur arrivé à son livre, et elle avait raison. Pour Tom, nier eût été aggraver son cas. Becky s'en réjouissait-elle? Elle n'arrivait pas à savoir si elle était contente ou non. Quand les choses allèrent au plus mal, elle faillit se lever pour dénoncer Alfred. Mais elle y renonça parce que, disait-elle, « Bon, Tom va sûrement me dénoncer pour avoir déchiré la gravure. Je ne dirai pas un mot, même pour lui sauver la vie. » Tom fut fouetté et prit la chose avec philosophie. Dans son idée, il était possible que, sans s'en rendre compte, il ait renversé lui-même l'encre sur son livre pendant un chahut de classe. Il avait adopté sa ligne de conduite pour la forme et par tradition, et il s'y tenait par principe. Une heure entière s'écoula. Le maître dodelinait de la tête sur son trône. L'air était lourd du bourdonnement de la classe au travail. Puis M. Dobbins se redressa, bâilla, ouvrit son pupitre, prit son livre. Il ne semblait pas se décider à l'ouvrir. La plupart des élèves le regardèrent faire d'un œil indifférent, sauf deux. Becky et Tom, bien sûr, qui suivirent le manège avec une attention angoissée. Le maître feuilleta d'abord le livre d'un air distrait, puis il l'ouvrit et s'installa commodément sur sa chaise pour lire. Tom jeta un coup d'œil vers Becky. Elle avait un regard de bête traquée, terrifiée, comme si elle voyait en face d'elle le canon d'un fusil. Instantanément, il fit abstraction de leur querelle. Vite, il fallait faire quelque chose et le faire tout de suite, mais quoi ? L'imminence du danger paralysait son esprit d'invention. Tout à coup, une idée lui vint. Courir, sauter sur le livre, bondir dans la cour et s'enfuir. Mais il hésita. Et, dès lors, l'occasion était manquée. Le maître venait d'ouvrir son livre. Que Tom n'eût-il pas donné pour que la chance se présentât une seconde fois? Trop tard. Plus d'espoir pour Becky. L'instant d'après, le maître promenait sur toute la classe un regard courroucé. Tous les élèves baissèrent les yeux. Les innocents eux-mêmes étaient terrorisés. Il y eut quelques instants de silence pendant lesquels le père Dobbins sentit sa bile s'échauffer. Tout à coup, il s'écria.
Qui a déchiré ce livre ?
Personne ne répondit. On aurait entendu voler une mouche. Le silence continua. Le maître scrutait chacun des visages pour y trouver un aveu de culpabilité.
Benjamin Rogers, est-ce vous qui avez déchiré ce livre ?
Non, monsieur.
Joseph Harper, est-ce vous ?
Non, monsieur.
Pendant la longue torture de cet interrogatoire, la gêne de Tom allait croissant. Du premier rang des garçons, le maître passa au premier rang des filles.
Hébé Lawrence.
Signe de dénégation.
Gracie Miller.
Même signe.
Suzanne Harper, est-ce vous ?
Même signe. C'était maintenant au tour de Becky Thatcher. La situation était désespérée. D'énervement, Tom tremblait de la tête aux pieds.
Rebecca Thatcher.
Tom la regarda. Elle était blême de terreur.
Avez-vous ? Regardez-moi bien en face.
Les mains de Becky se joignirent en un geste de supplication.
Est-ce vous qui avez déchiré ce livre ?
En un éclair, Tom vit ce qu'il y avait à faire. Il se leva comme mu par un ressort.
C'est moi, monsieur, dit-il posément.
Devant un acte dénotant une si incroyable aberration, toute la classe resta bouche bée. Il fallut d'ailleurs à Tom le temps de reprendre ses esprits. Et quand il se leva pour subir sa peine, l'étonnement, la reconnaissance, l'espèce d'adoration qu'il put lire dans les yeux de la pauvre Becky était telle qu'il se serait offert 100 fois pour être fouetté à sa place. Il était tellement fier de ce qu'il avait fait qu'il reçut sans une plainte la fessée la plus magistrale que M. Dobbins s'est jamais administrée. Quant à la nouvelle d'une punition supplémentaire de 2 heures de retenue qui lui était infligée, elle lui fut indifférente, sinon agréable, car il savait qu'à la sortie, elle lui vaudrait l'accueil chaleureux de quelqu'un qui ne se plaindrait pas d'avoir attendu. Cette nuit-là, Tom se coucha en ruminant des plans de vengeance contre Alfred Temple, car, prise de remords, Becky lui avait raconté, sans oublier son propre stratagème, l'acte dont elle avait été témoin. Mais la soif de vengeance passa bientôt au second plan, et Tom finit par s'endormir en se répétant les derniers mots de Becky avant son départ, les mots qui lui chantaient encore dans la tête. « Tout de même, Tom, ce que tu as fait là, c'est rudement chic. »
Fin de la deuxième phase de la 6e cassette, « Les aventures de Tom Sawyer » par Mark Twain, page 157.